Fait plaisir de vous revoir ce matin. Semaine dernière, j'étais au travail, donc j'ai pas pu avoir ce privilège de partager la communion fraternelle avec vous. Quel précieux trésor que la parole de Dieu qu'on va lire, méditer ce matin. Que le Seigneur nous ouvre notre intelligence, notre discernement pour saisir ces splendeurs éternelles qui sont pour nous. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chapitre 7 du livre de Daniel. Pas facile. On reprend la méditation de ce merveilleux livre du prophète Daniel. Et puis les questions de deux rêves. Vous avez déjà médité le premier, chapitre 2. J'y reviendrai courtement. Et puis un deuxième rêve qui se répète au chapitre 7. La répétition de ces deux rêves, ça a pour but de confirmer des vérités prophétiques à venir. Le plan de Dieu se déroule non seulement la volonté des hommes, mais c'est le Seigneur qui déroule le plan de l'histoire de cette humanité selon sa volonté, selon son projet. La pratique était répandue chez les auteurs bibliques de répéter des réalités afin que, oui, c'est une confirmation, une réalité qui va se produire. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le chapitre 7. On connaît le début et puis on connaît la fin. La fin, c'est notre éternité avec Christ. Mais je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe entre. Je pourrais pas tout dire. Un message ne suffirait pas. J'en ai pas la prétention. Et puis je comprends pas tout encore. C'est complexe. Les exégètes de tous les siècles ont essayé d'expliquer tout ça. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Daniel voit déjà les prémices de la réalisation de sa prophétie parce que le grand roi Babylone, la tête d'or du premier rêve, qui était tout puissant dans ce monde, fut balayé par les Mèdes et les Perses, l'ours, et puis le bélier dans le chapitre 8, c'est les Mèdes et les Perses qui sont ensemble dans une alliance pour battre les Babyloniens. Et c'est vrai que Daniel voit ça. Ensuite, les Mèdes et les Perses sont terrassés par les Grecs qui sont symbolisés par ce léopard volant. Ensuite, les Grecs furent écrasés à leur tour par cette quatrième bête effrayante, versets 7 à 8. Cette bête est si impressionnante qu'il n'existe même pas d'équivalent dans la nature pour essayer d'en faire un parallèle. Daniel trouve pas les mots. Il y a tellement d'apparentes terrifiantes. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce passage, on découvre avec stupeur aussi le portrait d'un monde implacable. L'anéantissement, l'asservissement du prochain se répète sans cesse. Combien de familles ont été décimées depuis l'histoire de cette humanité à cause des ambitions démesurées de peuples, de royaumes, de tyrans. Et l'attrait du pouvoir et la domination, ça n'arrête pas. C'est pas étonnant de découvrir le prophète dans un tel état de stupeur quand il voit en vision ce qui va se passer vers la fin des temps. Et j'y viendrai tout à l'heure. Tout au long de l'histoire, des empires se sont succédés, détruisant des vies, persécutant l'Église du Dieu vivant, détruisant des vies, bien souvent innocentes, et persécutant particulièrement l'Église qui n'était pas encore là, mais en tout cas le peuple de Dieu, du Dieu vivant. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec tous ces aspects menaçants de Daniel 7, j'ai l'impression d'être un reporter de guerre un peu quand je vous parle comme ça, eh bien nous voyons que, en opposition à cette menace effrayante à venir, l'Éternel ouvre une fenêtre dans le ciel. Versets 9 à 14. Daniel y voit soudain le trône de Dieu, l'ancien des jours, cheveux blancs, tout ça, avec autorité. Et l'Éternel, par un acte solennel, intervient en majesté. Des trônes sont installés. Des millions le servent et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Tiens, première question, qui sont ces centaines de millions ? Imaginons que ce soit tous les chrétiens de tous les siècles qui soient là en train de servir Dieu et le louer et l'adorer. Peut-être. Certainement. La cour de justice prend place, verset 10. Et devant sa sainteté éternelle, tous le glorifient. Sa colère est prête à s'attiser, vous voyez ce feu ardent, devant le péché, devant l'ennemi de nos frères, de nos âmes. La colère est prête à s'attiser. Et puis on assiste à l'ouverture des livres dans lesquels sont consignés en vue des jugements toutes les actions des hommes pécheurs. Alors je nous rassure, c'est que nous, on n'est pas dans ces livres. Mais au chapitre 12 de Daniel, il y a le livre de vie. Où sont inscrit le nom de tous les élus de tous les temps rachetés et sanctifiés par Dieu. Les livres furent ouverts. Mais l'apothéose de la vision, elle arrive au verset 13. Soudainement, quelqu'un qui a l'apparence d'un fils de l'homme. On découvre plusieurs éléments par rapport à la signification de qui est ce fils de l'homme. Alors beaucoup d'entre nous, on le connaît. Les versets 13 à 15, on apprend déjà la nature humaine. Ce titre dépasse de très loin la simple identification à la descendance d'Adam. Non, Jésus, là il s'agit de Jésus, est décrit comme le fils de l'homme en attendant son incarnation. Daniel a déjà une vision de sa présence, une préincarnation. Il représente, on le sait, ce fils de l'homme, le personnage principal du développement de la pensée messianique de Jésus, donc de l'Ancien Testament, de sa venue future. Et puis on y voit la nature divine de ce fils de l'homme. Il paraît devant l'Ancien des Jours et se voit revêtu d'une autorité royale, universelle. Qui d'autre que Jésus pouvait, dans sa sainteté parfaite, prétendre se présenter devant le trône de Dieu? Un humain? Impossible. Parce qu'au chapitre 8, et vous le verrez la prochaine fois, Daniel est frappé d'étourdissement quand il reçoit des révélations de l'ange Gabriel. Jean, dans l'Apocalypse aussi, il flageole des pieds quand il l'entend, quand il reçoit ses révélations divines. Il a aussi besoin d'être relevé et soutenu. Même Moïse, le plus grand des prophètes, dans l'Ancien Testament, n'a pas pu voir Dieu en face. Il l'a vu simplement de dos. On voit la grande différence avec le Fils de l'homme qui se tient debout devant l'Ancien des Jours, j'imagine, en train de dialoguer avec Dieu, son Père. Et il subsiste. Et puis un des éléments que j'aime dans ce texte aussi, c'est la mission du Messie. Alors Daniel 2, verset 34, nous dit qu'à un moment donné, pour essayer d'illustrer, hein, parce que ce qu'il voit, c'est pas facile. Il voit une pierre qui se détache sans aucun secours humain et qui détruit la statue de son premier rêve. Il est la pierre qui se détache sans aucun secours humain et détruit tous les royaumes humains. Ça, c'est ce que Jésus fera à la fin des temps. Tous les royaumes et ses rois si puissants et arrogants qui se sont succédés et qu'on vit aujourd'hui, qu'on découvre, qu'on voit autour de nous, hein, ne pourront résister au jugement et au règne de Dieu. Ça viendra, bientôt. Dans le Nouveau Testament, Jésus emploie lui-même ce titre pour se désigner comme fils de l'homme. Il est celui qui révèle les paroles de Dieu, les vérités bibliques. Il possédait tous les attributs du Père. Il était son parfait reflet lors de son incarnation. Il avait tout pouvoir sur les éléments, tout pouvoir sur les maladies. Il avait l'autorité suprême parce que lui seul pouvait pardonner les péchés, lui seul pouvait chasser les démons et lui seul pouvait ressusciter des morts. Il se désignait aussi comme celui qui allait souffrir à la croix, seul moyen donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, pour recevoir le salut de nos âmes et échapper à la colère divine. Jésus l'a fait en mourant à la croix, mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité et on peut se réjouir. Alors je ne sais pas dans quelle mesure Daniel pouvait concevoir tout cela, mais c'est prodigieux. Et puis ce dernier point sur le Fils de l'homme, Jésus est désigné, il est apparenté au retour triomphal, à son retour triomphal. Le Fils de l'homme est apparenté au retour triomphal de Jésus-Christ, qui apparaîtra avec éclat, et nous on sait en lisant Apocalypse, au son de la dernière trompette. Et puis cerise sur mon gâteau avec toutes ces réalités spirituelles à venir, c'est notre espérance. C'est qu'un jour je verrai Jésus face à face. Et je ne mourrai pas, parce que nous aurons été transformés à son image. On aura revêtu l'immortalité. Nous verrons celui qui nous a tant aimé, Jésus. Daniel, après cette vision, il cherche des réponses, parce que même s'il a une certaine conception des réalités à venir, il se dit, mais il y a une bête là qui me fait peur, cette quatrième bête terrifiante. J'aimerais en savoir plus. Alors il éveille notre attention des versets 19 à 26, il nous donne des agissements, des informations sur son attitude. Alors je fais un grand saut dans l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps ce matin hein, de voir les actions du malin déjà, du temps des Romains, Christ a été crucifié sous les Romains, où Jérusalem et le Temple a été détruit. Là, on voit déjà, entre guillemets, des antichrists à l'œuvre, en tout cas des prototypes ayant l'état d'esprit. Daniel éveille notre curiosité parce qu'il est question de l'avènement de l'Antichrist qui soumettra le monde à sa domination tout en persécutant les saints. Cet événement à venir précède le retour de gloire de Christ. Elle dominera sur la terre avec mépris, balayant, détruisant tout, pulvérisant tout sur son passage. En cherchant premièrement à éliminer la loi divine, le texte nous dit, en persécutant les saints durant une période définie par Dieu, les fameux 1260 jours, on verra tout à l'heure, et puis en essayant par la ruse, par tout un tas de stratagèmes, à effacer toute trace publique de la religion, de la foi chrétienne. Comment fera-t-il? J'en sais rien. En tout cas, il est à l'œuvre depuis des milliers d'années par rapport à ça. Et le nom de Dieu sera blasphémé ouvertement. Alors, pour en savoir plus, j'ai été un petit peu voir dans Apocalypse chapitre 13, qui nous décrit aussi les attraits un peu particuliers de cette bête féroce. On y voit déjà que cet antéchrist ou cette bête, appelez-le comme vous voulez, elle va être revêtue des trois caractéristiques de l'ours, du léopard, du lion. Déjà, ces bêtes faisaient peur et détruisaient tout. Vous en avez une quatrième qui reprend toute cette puissance. Et tout à coup, j'ai pensé aux Avengers. Vous savez, ceux qui regardent les films au cinéma. Bientôt, il y a Ant-Man qui sort au cinéma. Donc, c'est un gars qui a le pouvoir de devenir petit, minuscule comme une abeille, et aussi grand que la Statue de la Liberté. Et donc, dans cet imaginaire américain, bien sûr, qui a été inventé dans les années peut-être 40, 50, enfin peu importe, on y voit des super-héros qui ont des dons supranaturels pour défendre bien souvent l'humanité. Là, vous avez quelqu'un qui a des dons surpuissants, et c'est pour détruire l'humanité. Et qui plus est, détruire les saints du royaume. Et cette fameuse bête sera investie des pleins pouvoirs donnés par le diable, en Apocalypse 13. Alors elle utilise au moins deux grandes méthodes qui sont déjà à l'œuvre actuellement pour arriver à ses fins, parce qu'un jour elle va apparaître, à nos yeux peut-être. Elle va utiliser sa force cruelle, sa manigance, pour régner en seigneur avec une main de fer, déployant aussi toute une palette, ça c'est le deuxième point, toute une palette de séduction dans le but de rallier le monde à son adoration, par son arrogance, ses pseudo-miracles, et c'est la fascination qu'elle procurera à tous les habitants de la terre, l'adoreront, sauf les véritables chrétiens encore présents à ce moment-là. Les véritables disciples de Christ verront que c'est un leurre. D'ailleurs, cette bête, elle prendra même l'apparence d'un agneau, feignant de mourir et de reprendre vie. Le seul agneau du Dieu qui est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ. Mais lui, il va imiter ces choses-là. Elle fera cette bête en sorte que tous les humains reçoivent son sceau sur la main droite ou sur le front en signe d'allégeance à son règne. Et puis ainsi, personne ne pourra plus acheter ou vendre sans porter ce sceau. Et nous le savons que cet empire sous la dictature du malin livrera la guerre contre les saints du royaume pendant 1260 jours. C'est quoi? C'est 3 ans et demi? Peut-être. C'est difficile de dire. Quand même, après toutes ces réalités alarmantes, j'ai pas le choix, je vous dis ce que dit le texte, hein, c'est une réalité qui vient à nous et qui est déjà présente au milieu de nous. Ce qui est précieux, c'est le verset 26 qui nous dit « Autant décidé, par Dieu, la fin viendra, le jugement arrivera, c'est sûr, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue à jamais. » Nous le savons, la victoire appartient à Dieu, en Jésus-Christ. Aussi grand et puissant que soit un homme ou une nation ou un empire, un jour tout finira au feu. Il ne subsistera aucune trace, ne subsistera sur terre que le royaume de Dieu instauré par Jésus-Christ. Alors mes amis, chers frères et sœurs, même si l'avènement de cette personne ou de cette entité, je ne sais pas comment vous dire, elle n'est pas encore survenue, l'apôtre Jean, ça fait 2000 ans qu'il nous dit ça, l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde, 1 Jean 4, verset 3. Son esprit est déjà à l'œuvre dans le monde depuis l'Antiquité. Songez un instant. Notre calendrier avec ses fêtes religieuses est contesté. Les crèches et les croix sont retirées de l'espace public. La persécution est en augmentation croissante. Quoique l'Église, en Iran, malgré tout ce qu'elle subit, elle vit, c'est la plus grande croissance dans le monde. Il y a beaucoup de conversions, malgré les persécutions outrancières. Et nous le savons, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre cela, mais son esprit est à l'œuvre. Le mal est appelé bien. L'injustice et la débauche, banalisée. Tremblement de terre, qu'est-ce que je peux vous dire? Plus de 40 et quelques milliers de morts. Tout ça, c'est les prémices, encore. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Ça fait bientôt un an que l'Ukraine subit les assauts de la Russie. Tout ça, ça résonne à nos oreilles. Il suffit d'allumer son poste de télévision et puis paf, on prend plein les yeux et on est touché intérieurement. Des tensions entre les USA et la Russie, la Chine, allez, ça continue. Quelqu'un disait, on est potentiellement à 2 minutes de l'apocalypse, parce que quelques Russes ont dit, et si on envoyait une petite bombe atomique sur les Français, histoire de les calmer un peu. Ça fait peur, hein. 2 minutes, faites pas grand-chose. Hein. Bon, tous ces faits marquants doivent nous interpeller, nous stimuler à la vigilance, mais à l'action aussi, à œuvrer pour le bien de ce monde. Jésus nous avertit il y a bien longtemps en disant, soyez vigilants, restez sur vos gardes. Quand vous verrez ces choses arriver, attention, ça c'est Matthieu 24. Il s'élèvera de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire si possible, même les élus. Il y a des discoureurs, des influenceurs, très habiles, qui nous abreuvent d'informations, de tout genre, d'enseignements, de, etc., de fausses religions, de tout un tas de choses. Nous, nous avons la parole de Dieu. C'est sur la Bible que nous devons fonder notre espérance, sur la vérité biblique. Prenez garde, Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même. Ouais, ça c'est une réalité ici en Europe. Prenons garde à nous-mêmes parce que de crainte que nos cœurs s'apesantissent par le manger, le boire. Mes amis, notre Occident prône surtout les loisirs sous toutes ses formes. Allez, éclatez-vous. On peut s'amuser un peu, j'ai des plaisirs, mais au point de nous détourner de Dieu. Les excès de toutes sortes. Et puis on est égaré par les soucis de la vie. Et puis du coup, ce jour risque de venir à l'improviste. La Bible nous dit, soyons vigilants de ne pas perdre le cap, de ne pas défaillir en chemin par des plaisirs de toutes sortes que nous donne ce monde. Soyons vigilants, la nuit s'avance. Veillons, prions pour ne pas tomber en tentation. Persévérons comme l'apôtre Paul nous disait dans Acte 2, 42, on le connaît. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle parce qu'on est, on peut se prêcher des vérités spirituelles, l'espérance, des promesses à venir, l'assurance de la vie éternelle. Vivons cette communion, profitons-en, parce que quand il y avait le Covid, on a souffert de ne pas pouvoir se réunir. Aujourd'hui, on peut le faire, profitons-en à tout moment. L'apôtre Paul nous dit encore, soyez à l'écoute de l'enseignement biblique. Pas seulement le dimanche matin, ça ne suffit pas. Lisez la parole de Dieu, sondez les Écritures pour être de plus en plus enraciné en Jésus-Christ, ne pas se laisser ébranler par tout vent de doctrine extérieure. Et puis, passer du temps dans les moments de prière et d'intercession. On est tellement accaparé, moi-même, par tant de choses que finalement, il n'y a plus que ça de temps de prière à donner. Et pourtant, c'est tellement important, tellement essentiel d'être dans cette relation de cœur à cœur avec Jésus. Et puis, ce qui est précieux, c'est ce qu'on va vivre aussi, quatrième point, c'est partager la Sainte Cène. Parce qu'on se rappelle que Jésus-Christ a vaincu les dominations des ténèbres. Le malin n'a plus que peu de temps et s'agite avec force et virulence. Jésus-Christ nous a acquis la vie éternelle, le pardon des péchés. C'est lui le centre historique, j'allais dire, de l'histoire de l'humanité. Tout converge vers Christ. Et puis on se rappelle qu'il a obtenu le pardon de nos péchés à la croix. Que l'ennemi sera enchaîné, vaincu, on le voit dans le texte. Et même le dernier ennemi, quand Jésus reviendra, sera vaincu. La mort n'existera plus. Et on pourra partager l'éternité avec Christ. Alors mes amis, malgré l'état catastrophique du monde au niveau moral et éthique spirituelle, et vous pouvez en rajouter encore, le but de ces prédications, parce qu'il y a un but, c'est de nous encourager à imiter Daniel. Lui, je ne sais pas si vous avez constaté, mais souvent je regardais, il y a beaucoup de fois, c'est répété 9 fois dans le chapitre. Son regard, ses pensées étaient constamment orientées vers le ciel, verset 9 si vous les cherchez. Et puis il prenait soin de conserver dans son cœur toutes les paroles qu'il a reçues. Nous, il est important de conserver dans notre cœur. Pourquoi pas d'apprendre des versets bibliques concernant les splendeurs spirituelles, le trésor qu'est la Bible, la vérité. Face à ce qui le dépassait, Daniel disposait comme ressource la vérité. Le monde, l'esprit du monde, nous conduit avec et par le mensonge. Nous, nous avons la vérité biblique. Je ne fais pas preuve d'arrogance ou d'orgueil, c'est une vérité. La vérité biblique, elle est contenue dans les Écritures. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Et puis, face à ce qui l'effrayait, parce qu'aujourd'hui, il y a de quoi être effrayé, nous pouvons, comme Daniel, nous appuyer sur l'espérance de Christ qui va venir bientôt. Et la gloire qui nous attend à venir. L'espérance de Christ et la gloire à venir. Et puis, l'idée principale qui se dégage de ce texte et qui peut nous encourager, on l'a lu tout à l'heure, Dieu est au contrôle avec Isaïe. L'Éternel est souverain. Ça traverse tout le livre de Daniel. Il règne avec autorité, il règne avec puissance, dans le monde visible et invisible, depuis toute éternité, rien ne lui échappe. Alors, je vais utiliser un terme Mède et Perse, deux réalités irrévocables, réjouissent mon cœur et sont une source inépuisable de joie. La première, c'est le triomphe final et glorieux de Jésus-Christ. Je vais vous relire les versets 13 et 14. Et voici sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. On lui donnait la domination, l'honneur et la royauté et tous les peuples. Les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Ça, ça réjouit mon cœur, le triomphe final glorieux de Jésus-Christ. C'est une réalité, une vérité irrévocable dans la parole de Dieu qui est là au plus profond de moi-même. Et puis deuxième réalité irrévocable, verset 27, le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints. Et nous régnerons pour l'éternité avec Jésus-Christ. Waouh, ça fait du bien. Réjouissons-nous, mes amis, en espérance, car Jésus vient bientôt nous chercher. Bientôt. Quoi qu'il advienne, mes chers frères et sœurs, dans les prochains temps dans ce monde, qui sait ce qui va nous arriver encore ? Et même si nous ne maîtrisons pas le déroulement chronologique des événements à venir, c'est une réalité, qui sont annoncés par la Bible, nous avons et nous savons par la foi que Jésus-Christ est vainqueur, qu'il sera proximité, il conduira son Église, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin du monde. Et rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Et rien ni personne ne pourra nous faire déchoir de la gloire à venir. Ça, c'est réjouissant. Quoi qu'il advienne, tout est entre les mains du Seigneur. Nous lui appartenons. Il est notre rocher, notre Seigneur, le bon berger, qui nous conduit vers des verts pâturages. Mais il nous conduit aussi sur des terrains de guerre pour aller faire du bien, pour aller le représenter. En conclusion, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est persévérons dans notre marche chrétienne en œuvrant pour la gloire de Dieu, là où le Seigneur nous envoie. Devant l'urgence de la situation, dans ce monde, on peut saisir les occasions, encore possibles, pour venir au secours de nos contemporains qui sombrent dans les ténèbres. Moi, je suis réjoui de voir mes frères et sœurs qui sont partis en Roumanie faire du bien aux Roumains, aux Ukrainiens. C'est une manière d'œuvrer dans ce monde qui est en perdition et d'aller apporter la lumière et un peu de sel dans ce monde, en attendant le retour de Christ. Moi, j'étais frappé il y a quelques jours, je regardais un reportage et j'ai vu une vieille dame de 87 ans. Une Ukrainienne de 87 ans. Elle n'était jamais sortie de son village. Mais elle vivait un drame. Il lui restait plus que son petit-fils et ce petit-fils, il vivait en Russie. Donc elle a fait, à son âge, elle a quitté son village plus de 3 jours de bus. Plus du temps passé sur place et retour encore 3 à 4 jours. Elle était épuisée. Mais son cœur battait pour ce petit-fils. Elle allait le chercher. Moi, je me dis, Jésus, rien ni personne n'aurait pu le dissuader, rien ni personne, de venir sur la terre, de s'incarner, afin de venir nous chercher parce qu'on était perdus, parce qu'on était dans une terre de guerre, une terre hostile, entre les mains de l'ennemi, le diable, qui cherche à détruire le peuple de Dieu et tous les humains. Jésus, il a fait ça. Alors moi, j'ai besoin d'être fortifié dans ma foi intérieure. Et nous avons besoin aussi d'être fortifiés dans notre foi intérieure afin que le Seigneur me donne de la détermination. Comme cette bonne femme, pardonnez-moi le terme, c'est pas méchant. comme cette femme extraordinaire. D'autres femmes aussi ont fait des milliers de kilomètres en train pour chercher leurs enfants. Wow, je me suis dit, mais oh, extraordinaire. Et moi, enfant de Dieu, je détiens un message le plus précieux pour le salut des hommes et des femmes, mais je peux le faire par ma parole, mais aussi par l'entraide, comme le font les frères et sœurs en Roumanie, d'une manière pratique, sociale. C'est aussi une manière d'annoncer l'Évangile. Ouais. Seigneur, nous sommes engagés, enfin frères et sœurs, nous sommes engagés dans une mission de sauvetage de l'humanité. Parce qu'un jour, on ne pourra ni travailler, ni rien faire. La nuit sera trop avancée. Profitons-en. On a besoin de se fortifier, de s'encourager mutuellement à ce genre de travail. Alors, je vous propose une petite, un petit challenge à relever pour les 2 semaines qui viennent. Ça serait sympa que vous puissiez prêcher le bon nom de Jésus avant qu'il revienne. Hein. Mais par exemple, inviter un collègue, un voisin, à prendre le thé, le goûter, discuter, voilà. Et puis, peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de parler avec cette personne. Alors, c'est pas pour ça que on annonce l'Évangile et puis on explique tout, mais rien que le fait de se dire, tiens, je vais prier, je vais prendre du temps pour inviter cette personne, et puis ensuite pouvoir l'inviter, c'est un moyen de semer des petites graines d'amour. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de Jésus, peut-être pas. Mais vous savez que l'idée, c'est de créer une relation. On peut dire, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Moi, on me dit, tiens, pourquoi tu travailles du matin samedi et d'après-midi dimanche ? Ben, parce que le matin, je vais à l'église. En plus, je vais prêcher. Ah, t'as intérêt de ça cet après-midi, disait ma collègue. C'est un moyen de parler de Dieu. Et puis, à d'autres moments, ben, on parle de l'actualité. T'as vu ce qui se passe en Turquie ? T'as vu ce qui se passe ? Et c'est l'occasion de parler aussi de ce que nos frères et sœurs ont été en Roumanie. Et ils y sont encore pour prêcher le bon nom de Jésus par des actes sociaux d'amour, reflétant Jésus-Christ dans leur humanité, dans leur humilité. Peut-être même à travers la faiblesse. Et puis, j'en parlais avec Amalia pendant ce message, elle me donnait des petits conseils, tout ça, on échangeait, parce qu'elle est perspicace. Et puis elle me disait, tiens, au fait, j'ai un voisin, ça m'a un peu perturbé, il faisait des tonnes de tomates, puis ils étaient que deux, enfin beaucoup, hein. Alors elle lui a dit, mais pourquoi, cher frère, tu fais tant de tomates ? Oui, je fais de la sauce tomate, mais tout n'est pas pour moi, évidemment, c'est pour... donner à mes voisins. Enfin, je pense à un frère qui vient nous donner des fraises des fois. Merci. Ça fait du bien. Ce sont des petits moyens, des grands petits moyens qu'on peut mettre en œuvre pour venir au secours de notre humanité qui se perd. Parce que Daniel, même s'il était lié, prisonnier par un roi, notre roi, il mettait toutes ses capacités spirituelles en œuvre pour le bien même de ses tortionnaires. Par amour du prochain, afin de les gagner à Dieu. Toujours pareil, on veut gagner notre prochain pour les gagner à Dieu. Cherchons, mes amis, à discerner les petites occasions si précieuses pour témoigner autour de nous de qui nous sommes. Et pour finir, je vais vous lire un passage dans 2 Timothée, chapitre 4, pour clore ce message. Et commencez bien user cette Bible. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous, on n'est peut-être pas des prédicateurs, mais on peut parler de son propre témoignage, de son vécu, ça suffit, hein. Ça touche beaucoup. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. On peut le faire, c'était spécialement pour Timothée, mais on peut le faire à notre manière, avec nos propres moyens. Car il adviendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais nous, soyons sobres. En tout, supportons les souffrances. Faisons l'œuvre de, lui dit, d'un évangéliste, mais remplissons bien notre service. Voilà, soyons des témoins fidèles de la grâce. Que Dieu vous bénisse à travers ce message. Quoi qu'il advienne, Dieu est souverain. Amen.